RFI, les 23h en temps universel, 1h du matin à Rome et à Paris. Et c'est le journal d'Antoine Galen. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. À la une, le cercueil du pape François est maintenant fermé. Après l'afflux de 250 000 fidèles devant sa dépouille, les funérailles se dérouleront samedi matin à Rome. Les détails de cette cérémonie à suivre. En Cisjordanie occupée, les raids de l'armée israélienne et les attaques de colons s'intensifient. On fera le point dans ce journal. Un décret de Donald Trump provoque la colère de Pékin. Il prévoit l'extraction des minerais dans les grands fonds océaniques, y compris dans les eaux internationales. Une décision pour concurrencer la Chine, un acteur majeur du secteur minier. Et puis en France, qui sera le nouveau premier secrétaire du Parti Socialiste? Le congrès est prévu en juin et les prétendants sont nombreux.
RFI.
La place Saint-Pierre est désormais fermée au public. Trois jours après l'afflux de 250 000 fidèles devant le cercueil du pape François, les funérailles se dérouleront samedi matin à Rome. 50 chefs d'État, 10 souverains et 100 000 personnes sont attendues place Saint-Pierre. Alors quel sera le déroulé de ces funérailles? Les précisions de nos envoyés spéciaux Muriel Paradon et Jade El-Khoury.
Les funérailles débuteront à 10h du matin, mais la place Saint-Pierre sera ouverte dès 5h30 pour permettre au public d'y accéder. Cela prendra du temps, 100 000 personnes sont attendues et il y a des mesures de sécurité. Les forces de l'ordre sont déjà très visibles aux abords. Pour la cérémonie en elle-même, elle aura lieu sur le parvis, devant la basilique. Le cercueil du pape, scellé ce vendredi soir, sera sorti de l'église. Une messe aura lieu en présence des cardinaux. Des chaises ont également été installées pour accueillir les personnalités, les monarques devant, puis les chefs d'État. Il y aura notamment Donald Trump, Volodymyr Zelensky ou encore Emmanuel Macron. La cérémonie doit durer entre 1h30 et 2h. Ensuite, le cercueil sera transporté en convoi à travers les rues de Rome. Il passera le Tibre, traversera le Forum romain près du Colisée pour arriver à la basilique Sainte-Marie-Majeure. C'est là que le pape a souhaité être inhumé dans l'intimité. Tout au long du trajet, le public pourra suivre le cortège derrière des barrières métalliques. Des écrans géants ont été installés un peu partout dans Rome pour permettre à ceux qui ne peuvent accéder à la place Saint-Pierre d'assister à ses funérailles. Muriel Paradon, Jade El-Khoury, Rome, RFI.
Édition spéciale sur ses funérailles ce samedi, 8h, temps universel sur RFI. Donald Trump sera de la partie. Premier voyage à l'étranger depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier dernier. De son côté, Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il n'était pas certain d'avoir le temps de se rendre aux funérailles. Le président ukrainien évoque des réunions militaires 48 heures après les frappes russes sur Kiev qui ont fait 12 morts. Les négociations continuent. Donald Trump indique que la Russie et l'Ukraine sont proches d'un accord. Ce vendredi, l'émissaire américain Steve Witkoff a rencontré Vladimir Poutine. Au cœur des discussions, le territoire de la Crimée. Elle restera avec la Russie, affirme le président américain. Volodymyr Zelensky refuse. Notre position reste inchangée. Tous les territoires temporairement occupés appartiennent à l'Ukraine. Ce sont ses mots. Direction le Proche-Orient, une délégation du Hamas va rencontrer les médiateurs égyptiens ce samedi au Caire. Selon la défense civile palestinienne, au moins 40 personnes ont été tuées ce vendredi dans la bande de Gaza par des frappes israéliennes. En Cisjordanie occupée, la semaine a été particulièrement tendue. À Naplouse et Jenin, les raids de l'armée israélienne dans les localités palestiniennes s'intensifient ces dernières heures, tout comme les attaques de colons. Les précisions d'Amira Swilem à Ramallah.
Officiellement, Israël dit lutter contre les groupes armés palestiniens. L'armée a d'ailleurs annoncé avoir saisi des armes et déjoué une attaque terroriste lors d'une opération aujourd'hui à Qalqilia. Mais ces opérations, qui s'accompagnent aussi de destructions massives d'infrastructures et de maisons par centaines, sèment le doute sur leur véritable objectif. D'autant que l'armée israélienne est accusée d'inaction face aux attaques des colons qui se multiplient aussi ces derniers jours. Visage masqué, barre de fer ou arme à la main, ceux-ci incendient ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Maisons, voitures, arbres, comme cette semaine à Sinjil, une localité au nord de Ramallah. Un Palestinien est mort lors de cet assaut, une semaine endeuillée puisqu'un enfant de 12 ans a été tué par l'armée israélienne mercredi aux abords de Jenin. Jenin, où l'armée israélienne a été vue en train d'installer des grilles en fer à plusieurs points d'entrée du camp de réfugiés de la ville. De plus en plus, les localités palestiniennes de Cisjordanie occupées ressemblent à des îlots, on peut même dire, à des prisons à ciel ouvert. Une stratégie de l'encerclement et de la terreur qui a fait dire hier au journal de gauche israélien Haaretz que bien que non annoncée formellement, l'annexion de la Cisjordanie est déjà là sur le terrain. Amira Swilem, Ramallah. RFI.
Une semaine pour ébaucher un accord de paix. La République démocratique du Congo et le Rwanda se sont engagés à respecter leur souveraineté respective. Une déclaration signée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, aux côtés de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Une nouvelle étape pour mettre fin au conflit dans l'est de la RDC qui a fait des milliers de morts et dont le Rwanda est accusé d'être derrière le mouvement armé M23. En Tunisie, plus de 2000 personnes ont manifesté ce vendredi à Tunis. Un rassemblement pour réclamer le départ du président Kais Saied. Depuis un coup de force à l'été 2021 du président, les ONG et les opposants ont déploré une régression des droits et libertés dans le pays. Les manifestants dénoncent également l'incarcération d'Ahmed Swab, un ancien juge placé en détention ce jeudi. La Chine s'insurge et dénonce une atteinte au droit international. En cause, un décret signé par Donald Trump ce jeudi. Il prévoit l'extraction à grande échelle des minerais dans les grands fonds océaniques, y compris dans les eaux internationales. Cela concerne principalement les nodules polymétalliques riches en minéraux comme le manganèse, le nickel, le cobalt ou encore le cuivre. Pour les États-Unis, cette décision vise à sécuriser leur approvisionnement en minéraux critiques et concurrencer la Chine, un acteur majeur de ce secteur minier. Mais les associations de protection de l'environnement pointent du doigt un passage en force du président américain. Les précisions d'Igor Strauss.
Pour les défenseurs de l'environnement, cette décision est avant tout une catastrophe écologique. Des espèces et des écosystèmes qui abritent des formes de vie uniques pourraient être détruits avant même qu'on commence à les étudier, faisant peser un risque majeur sur la séquestration de carbone de l'océan qui régule la température de notre planète. Mais il dénonce également une violation du droit international. Anne-Sophie Roux, conseillère en politique maritime.
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui est le texte qui régule ce que l'on a le droit de faire et de pas faire dans la haute mer, c'est-à-dire la moitié de la surface de la planète, stipule qu'aucun pays ne peut s'arroger le droit de miner les fonds marins de manière unilatérale. Et donc, en fait, c'est un peu un pied de nez au multilatéralisme, parce que voilà, encore une fois, dans les eaux américaines, évidemment, les États-Unis font ce qu'ils veulent, mais dans les eaux internationales, là, c'est le moment ou jamais de faire respecter le droit international et d'empêcher ça.
Cette annonce des États-Unis n'est pourtant pas une surprise. Lors des négociations de l'Autorité internationale des fonds marins en mars dernier, la société canadienne The Metals Company, qui souhaite mettre en œuvre le premier projet d'extraction commerciale des fonds marins, avait demandé le feu vert à un Donald Trump plutôt réceptif. À l'époque déjà, la Chine et la Russie accusaient les États-Unis d'enfreindre le droit international.
Les États-Unis toujours. Luigi Mangione plaide non coupable. L'homme de 26 ans est accusé d'avoir assassiné en décembre à New York, le patron du plus gros assureur de santé américain. Un acte pour se venger des dérives de ce secteur. Il risque la peine de mort. En France, l'adolescente de 15 ans décédée ce jeudi a été frappée de 57 coups de couteau. Une attaque commise par un élève qui a également fait 3 blessés au collège-lycée Notre-Dame de Toutes Aides de Nantes. Le parquet a décrit un agresseur extrêmement solitaire et fasciné par Hitler. Mais aucun mobile ne peut être évoqué de façon certaine, annonce ce vendredi du procureur Antoine Leroy. L'actualité politique en France est cette question: qui deviendra le nouveau premier secrétaire du Parti Socialiste? Le congrès approche, ce sera en juin, et ça y est, on connaît désormais l'affiche du match à venir. Pour contester la ligne Olivier Faure, l'actuel numéro 1, le principal prétendant sera Nicolas Mayer-Rossignol. Le maire de Rouen a été désigné officiellement ce jeudi. Il organisait une conférence de presse ce vendredi matin.
Si vous trouvez, si on trouve que l'état de la gauche aujourd'hui est satisfaisant, bah alors effectivement, il faut rien changer. Hein, nous, on n'est pas satisfait. La gauche toute mouillée, elle a moins de 30%. Non seulement elle ne gagne pas à l'élection présidentielle, elle n'a pas non plus gagné la majorité absolue à l'élection législative. Donc la question de ce congrès, elle est très simple. Est-ce qu'on veut le statu quo? Personne ne comprend plus très bien ce que le Parti Socialiste a à dire comme famille politique. Ou bien est-ce qu'on veut de la clarté? Nous, on propose le changement et la clarté. Pourquoi? Pour gagner et pour changer la vie des gens. Changer le Parti Socialiste, oui, mais changer la gauche et changer la vie des gens et répondre à leurs inquiétudes et leurs attentes sur la sécurité, sur l'économie, parler aux ouvriers, aux employés. C'est ça le nouveau socialisme. Voilà. Donc on veut juste être clair. Donc c'est pas contre une personne, c'est pas anti-fort, c'est anti-flou.
Nicolas Mayer-Rossignol au micro de Victorien Villot. M'a noté que le député Boris Vallot est également en lice pour remporter le poste de premier secrétaire du Parti Socialiste en juin prochain.